J'aimerais qu'on puisse prier maintenant et remettre ce moment-là qu'on va avoir entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour la joie d'être ici. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta miséricorde, ton salut. Merci pour ton peuple, pour ton œuvre qui est grande, qui est formidable, magnifique, Seigneur, partout dans le monde. Et merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire parmi nous ce matin. Seigneur, ouvre notre cœur, rends-nous disposés à entendre ta parole. Tu veux nous dire des choses importantes et nous voulons les entendre, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Alors moi, je suis heureux d'avoir été invité ici ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis arrivé en France, l'église d'Ozoir, c'est l'église qui m'a accueilli. Je débarquais du Canada, je ne connaissais pas la France. Et il y avait Joël, mon fils, qui avait un an et quelques. Et c'est ici qu'on est arrivé. Mais je suis content, pas seulement parce que j'aime cette église et qu'il y a une histoire commune entre cette église et nous. Mais je suis content aussi parce que ce matin, on m'a demandé de parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. La prière. En réfléchissant à ce sujet de la prière qu'on va traiter ensemble aujourd'hui, je dois vous dire d'emblée que je ne vais pas me poser ici en expert en la matière. J'ai beaucoup, beaucoup à apprendre dans le domaine de la prière. Je ne suis pas un champion de la prière. J'aimerais bien. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais tout ce que j'ai lu dernièrement et dans le passé sur le thème de la prière me motive à vouloir continuer à approfondir. J'ai l'impression de n'avoir qu'effleuré la surface tellement le sujet de la prière est vaste. La prière. Moi, à la fin de ce message ce matin, j'aimerais qu'on puisse sortir d'ici en ayant des outils, des pensées qui vont nous aider à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu dans nos cultes personnels, dans notre vie de tous les jours, pour continuer à progresser dans le domaine de la prière. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais il y a environ 650 prières dans la Bible. 650 prières, c'est beaucoup. Ah, je suis sûr que, en réalité, les gens, depuis le début du monde, ont prié beaucoup plus que 650 fois. Mais il y en a 650 de recensés dans la Bible. Donc, quand on parle de la prière, on ne parle pas d'un petit sujet secondaire qu'on peut facilement mettre de côté. Non, non. Le thème de la prière, c'est un thème central dans les Écritures. Un thème central. D'ailleurs, pour prouver cela, on peut penser à l'époque d'Enoch. Alors, qui est Enoch? Le petit-fils d'Adam, deux générations après Adam et Ève. Au tout début de l'histoire de l'humanité, donc, la Bible nous dit qu'à l'époque d'Enoch, les hommes priaient. Donc, la pratique de la prière, c'est une pratique très ancienne. Et à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, on retrouve le peuple de Dieu dans la gloire racheté. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train à nouveau de prier dans l'éternité, dans la Nouvelle Jérusalem. De Genèse à Apocalypse, la prière a donc eu à toutes les époques une place centrale dans la vie des croyants. Une place centrale. La prière, elle était également centrale dans la vie de Jésus, notre cher Sauveur, Jésus-Christ. Le Nouveau Testament nous révèle que souvent, souvent, et vous l'avez lu vous-même, très tôt le matin, tard le soir, et parfois toute la nuit, Jésus priait. Ça va peut-être vous intéresser de savoir qu'il y a en tout 25 prières de Jésus recensés dans les évangiles, 25. Évidemment, en 3 ans, Jésus a prié beaucoup plus que 25 fois. 25 prières recensées dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Et Paul, dans ses lettres, fait allusion, lui aussi, à la prière dans 41 versets. La prière, thème important. Et pas seulement pour les chrétiens. Quelqu'un a dit un jour de l'être humain, l'homme est un animal qui prie. Homo oratio, je sais pas, en latin. Un animal qui prie, l'être humain. Qu'est-ce que la prière? Alors, tout dépendant de la tradition religieuse des uns et des autres, les gens vont définir la prière différemment. Faites un micro-trottoir, allez parler aux gens, parlez à vos amis, demandez-leur de vous dire c'est quoi la prière pour eux, et vous allez constater à quel point la compréhension de ce qu'est la prière varie d'une personne à l'autre. Essayez, faites l'expérience. Il y en a qui vont vous dire, par exemple, que prier, c'est répéter des phrases mot à mot, comme une formule magique. L'important, c'est de dire les bons mots, les bons termes. Il ne faut pas se tromper. D'autres personnes qui vont vous dire ce qui compte dans la prière, c'est la posture qu'on prend. Le front contre la terre ou penché ou les mains levées, c'est ça qui est important. Et quand on a fait ça, on a prié. Il y en a qui prient pour tenter de manipuler Dieu, pour l'amener à faire ce qu'ils veulent. Et si Dieu a fait ce que tu veux, eh bien là, tu as prié. Et d'autres, tout simplement, prient pour se faire du bien, apaiser leur conscience. Ah, j'ai craché le morceau, j'ai dit à Dieu, là, je me sens bien. Et j'ai prié. Et puis, un cas extrême, dans certaines religions, la notion de Dieu n'est même pas nécessaire pour prier. La prière, c'est comme un exercice de relaxation. Il y en a qui comprennent la prière comme ça. Mais qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière? Alors, pour découvrir ce que la Bible nous enseigne au sujet de la prière, et du coup pour nous aider à trouver la motivation pour prier au jour le jour, jour après jour, j'aimerais qu'on prenne un texte des épîtres de Paul, les lettres de Paul. On va prendre l'épître aux Éphésiens au chapitre 3 et on va lire tout le chapitre. Donc, Éphésiens, chapitre 3, il y a 21 versets. Très beau texte. Je le lis, je le relis, et à chaque fois, je suis émerveillé. C'est pourquoi moi, Paul, j'adresse ma prière à Dieu. Chapitre 3, verset 1. Je suis prisonnier au service de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Vous avez certainement entendu parler de la mission dont Dieu, dans sa bonté, m'a chargé en votre faveur. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet, et en les lisant, vous pouvez comprendre à quel point je connais le secret qui concerne le Christ. Dans les temps passés, ce secret n'a pas été communiqué aux humains, mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit à ses saints apôtres et prophètes. Verset 6. Voici ce secret. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et bénéficient eux aussi de la promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Et je suis devenu le serviteur de la bonne nouvelle grâce à un don que Dieu, dans sa bonté, m'a accordé en agissant avec puissance. Je suis le moindre de tous les croyants et pourtant, Dieu m'a accordé cette faveur d'annoncer aux non-juifs la richesse infinie du Christ. Je dois mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son plan secret. Lui qui est le créateur de toutes choses, il a tenu caché ce plan depuis toujours. Afin que maintenant, grâce à l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse divine sous tous ses rapports. Tout cela est conforme au projet éternel de Dieu qu'il a réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur dans l'union avec le Christ et par notre foi en lui. nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Par conséquent, je vous le demande, ne vous laissez pas décourager par les souffrances que j'éprouve pour vous. Elles vous assurent un avantage glorieux. Et là, la prière de Paul, verset 14, il y revient. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre, et je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par sa puissance et par son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés, solidement établis dans l'amour, pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour bien qu'il surpasse toute connaissance, et ainsi être remplis de toute la richesse de Dieu. À Dieu, qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Amen. Amen. Quel texte, hein? On pourrait s'arrêter là. Tout est dit. Mais on va essayer de comprendre ce qui est écrit quand même là. La prière. Le chapitre commence par une petite phrase de Paul. C'est pourquoi moi, Paul, j'adresse ma prière à Dieu. Verset 1. Il faut dire d'abord ceci. La prière chrétienne est basée sur quelque chose de concret, d'objectif, quelque chose que Dieu a fait dans l'histoire des hommes. Pourquoi est-ce que l'être humain prie ? L'être humain prie parce que Dieu a agi. C'est pour ça qu'on prie. La prière, au début du chapitre 3 de la lettre aux Éphésiens, est présentée comme une réponse à l'action de Dieu. La prière, c'est toujours une réponse à l'action de Dieu. Dieu agit et nous, on prie. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce grand Dieu que Paul sert, qui a amené l'apôtre Paul à prier ? Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu ? Alors, Paul décrit le plan de Dieu dans les deux premiers chapitres de la lettre aux Éphésiens. L'œuvre de Dieu dans l'histoire des hommes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu ? Dans son plan parfait, Dieu a choisi Jésus. Il nous l'a donné comme sauveur. Il nous a élus. Et en lui, on a la vie. On a cru, on a été racheté, on a été adopté, on a été scellé du Saint-Esprit. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Ici donc, au début du chapitre 3, quand Paul réfléchit à l'Évangile, quand il repasse les grandes étapes du salut, tout naturellement, une prière jaillit de son cœur. Une prière de reconnaissance. Sa prière découle d'une méditation de l'Évangile. Alors, pour se motiver à prier, vous l'avez remarqué ici dans le texte, Paul ne s'est pas répété comme un mantra, « Ah, il faut que je prie, ah, si je dois prier, ah... » Non. Paul a pensé à l'Évangile. Paul a pensé à l'œuvre de Jésus-Christ, à ce que cela veut dire pour lui. Et une prière est montée dans son cœur. Ça m'interpelle. Je me demande si ma difficulté à prier ne vient pas parfois d'une sorte d'amnésie spirituelle. Le fait d'oublier un peu, peut-être consciemment ou non, ce que Jésus a fait pour moi. Ou en tout cas, négliger d'y penser assez. Négliger de penser à l'Évangile quand on prie, ça a un impact important. Quand on prie en mettant un peu ou beaucoup de côté l'Évangile, nos prières deviennent une corvée, un devoir religieux. Il faut que je prie. Ici, c'est le souvenir de l'Évangile que Paul n'a pas cessé de cultiver. Il a toujours cultivé le souvenir de l'Évangile dans sa vie. C'est le souvenir de l'Évangile toujours vivace dans la pensée de l'apôtre Paul qui a produit chez lui le zèle, la ferveur, la hardiesse dans la prière. Paul a appris à adresser à Dieu une prière centrée sur l'Évangile. Nous voulons être motivés dans la prière au début de cette nouvelle année. Pensons à l'Évangile, méditons l'Évangile, ouvrons la Bible, laissons l'Évangile nous toucher. Une prière centrée sur l'Évangile. Verset 2. Vous avez entendu parler de la mission dont Dieu m'a chargé dans sa bonté. Paul, quand il s'est converti sur le chemin de Damas, conversion spectaculaire, lui un persécuteur de l'Église, Paul a compris qu'il avait affaire à un Dieu bon. Vous pensez que ça va de soi? Peut-être pas tant que ça. Quelqu'un qui n'a pas appris à découvrir Dieu comme un Dieu bon, un Dieu plein de grâce, rempli de miséricorde, de fidélité, quelqu'un qui n'a pas appris ça va avoir beaucoup de mal à persévérer dans la prière. Est-ce qu'on a envie de prier un Dieu, je ne sais pas s'il est bon, un Dieu méchant? Le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu bon. Un Dieu qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Un Dieu qui sait donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Dieu est bon. Soyons convaincus de cela. En êtes-vous convaincus? Dieu est bon. Voilà pourquoi on est motivé à prier. Parfois, on peut vivre des circonstances difficiles qui nous amène à questionner la bonté de Dieu. Je pense que quand ma femme, Janine, est venue ici parler aux dames, elle a raconté à quel point le fait d'apprendre que mon fils Joël avait le syndrome d'Asperger a été bouleversant pour elle. Elle a commencé à douter de la bonté de Dieu, et ça a été très difficile. Pour nous, ça peut être un deuil, une maladie, une peine d'amour, le chômage, toutes sortes de circonstances difficiles dans notre vie. Et là, on arrive à se poser la question, Dieu est-il vraiment bon? Est-ce que Dieu est bon? Et à partir du moment où l'ennemi, l'adversaire qu'on appelle Satan dans la Bible, nous fait douter de la bonté de Dieu, il sait qu'on va avoir beaucoup de mal à prier. Si vous lisez l'histoire d'Asaph dans le psaume 73, et je vous encourage à le lire, Asaph a traversé un tunnel noir. Pourquoi? Parce qu'il portait envie aux méchants. Il commençait à douter de la bonté de Dieu. Il était sur le point de tomber. Et Dieu l'a relevé. Dieu l'a rattrapé. Et Dieu lui a parlé. Et c'est après être revenu à Dieu, après avoir redécouvert cette vérité fondamentale, verset 1 du chapitre 73 des psaumes, Dieu est bon pour Israël. C'est après ça qu'Asaph a pu écrire son psaume, le psaume 73, comme une prière à Dieu. Dieu est bon pour Israël. Et ici, Éphésiens 3. Quelles sont les circonstances de l'apôtre Paul? Paul était en prison. Il vivait des circonstances difficiles. Mais parce qu'il avait appris et parce qu'il avait pris l'habitude de se rappeler la bonté de Dieu dans l'Évangile, Paul a continué à prier. Imaginez si Paul s'était arrêté de prier. Est-ce qu'on aurait toutes les lettres ici? Est-ce que l'Évangile aurait été annoncé en Europe et ensuite dans mon pays, en Amérique? Paul a continué à prier parce que sa foi était enracinée dans la bonté de Dieu. Dieu est bon, voilà pourquoi on veut prier. Dieu est bon. Ensuite, la prière de Paul, Éphésiens 3, on le voit clairement dans tout le chapitre, découle de la connaissance de Dieu. En lisant Éphésiens 3, ce qui ressort de la prière de Paul, c'est qu'elle découle d'une intimité avec Dieu, une connaissance profonde de Dieu. On est motivé à prier dans la mesure où on connaît Dieu et de mieux en mieux. C'est dans sa relation intime avec Jésus que Paul a compris beaucoup de choses par rapport à sa mission. Il a commencé à saisir le plan de Dieu pour sa vie, pour l'Église. Et Dieu a commencé à lui révéler ses secrets. Imaginez, on s'attache à connaître Dieu et Dieu nous révèle ses secrets dans l'intimité avec lui parce qu'on veut le connaître. Paul a passé du temps dans la présence du Seigneur, il a appris à connaître son Dieu. Est-ce qu'on connaît Dieu comme Dieu voudrait qu'on le connaisse? Est-ce qu'on prend à cœur de mieux connaître Dieu? Je pense que si on prend la prière comme un sujet à part, et que si on se centre sur la prière, on fait fausse route. On veut connaître Dieu, et de cela va découler la prière. Paul connaît Dieu. Dans nos temps de prière, quand on est seul ou en église, est-ce qu'on voit encore les moments de prière comme une rencontre extraordinaire avec un Dieu qui se révèle? Ou est-ce qu'on considère ces moments-là comme quelque chose de mécanique, un devoir religieux à accomplir? Il y a une grande différence entre les deux. Paul a pris conscience quand il prie d'être en relation avec une personne glorieuse, une personne qui veut se laisser découvrir. Je crois que pour nous, pour notre vie de prière, on ne doit jamais perdre de vue cette dimension fondamentale de la prière, un exercice relationnel. Nous sommes devant une personne glorieuse. Une rencontre avec un Dieu qui veut se laisser connaître. Un Dieu qui veut se révéler. Donc, prière de Paul, une prière centrée sur l'Évangile. Une prière enracinée dans la bonté de Dieu. Une prière qui découle de la connaissance de Dieu. Et finalement, pour cette partie du message, en examinant les motivations de Paul, on se rend compte que la prière de Paul, c'est une prière lucide. Je suis le moindre de tous les croyants. Je suis le moindre de tous les croyants. Non seulement Paul a-t-il appris à connaître Dieu dans ses moments d'intimité avec lui, mais il a aussi appris à se connaître lui-même. Dans la prière, on apprend à se connaître soi-même. Paul sait qui il est devant Dieu. Un pécheur, gracié, un ex-persécuteur. Il sait que la grâce de Dieu envers lui n'a pas été vaine. Il a pris conscience de la profondeur du pardon de Dieu envers lui. Vous vous souvenez de l'histoire de cette femme qui vient casser le vase d'albâtre au pied du Seigneur Jésus. Et Jésus lui parle. Il lui dit, celui à qui on a beaucoup pardonné, aime beaucoup. Paul sait qu'il a été beaucoup pardonné. Résultat, il aime beaucoup. Il aime beaucoup. Il aime être en présence de Dieu. Il aime les moments de prière. Il les chérit dans son cœur. Il aime servir Dieu. Est-ce que ce serait possible que parfois, et là je pose la question, que parfois, nous, on s'approche de Dieu en pensant que quelque part Dieu est obligé de nous répondre. Hein? Est-ce qu'on s'approche de Dieu en pensant qu'on peut faire valoir des mérites personnels? Seigneur, j'ai donné ma dîme depuis tant d'années. Je t'ai servi dans l'Église depuis si longtemps. Regarde, Seigneur, je suis à fond dans le ministère, dans l'Église. Alors, évidemment, tu dois. Mes amis, quand on s'approche de Dieu, on ne peut jamais faire valoir de mérites autres que ceux de Jésus-Christ. Rien d'autre que les mérites de Jésus-Christ. Nous sommes des pécheurs. Si Dieu nous donnait ce qu'on mérite, on serait perdu pour l'éternité. Est-ce qu'on a saisi cela profondément? Paul n'a jamais oublié d'où il venait, d'où Dieu l'a sorti. Il est resté humble devant le grand Dieu qu'il a tant aimé. Paul est lucide. Il s'approche de Dieu avec humilité. Il sait qu'il a besoin du secours de Dieu à tous les jours. Et pour lui, prier, c'est une nécessité, tellement il a besoin de Dieu. Alors, la fin du chapitre 3, des versets 14 à 21, l'apôtre Paul nous fait entrer dans sa propre prière. Et là, je trouve ça extraordinaire. Paul soulève le voile et on peut regarder dans sa prière. C'est extraordinaire. Paul nous montre dans sa prière tout ce qu'il a appris de Dieu, tout ce qu'il a appris de l'Évangile, tout ce qu'il a appris de lui-même. Et il nous montre que cela a impacté sa vie de prière. Et en terminant le message ce matin, j'aimerais rapidement qu'on laisse la prière de l'apôtre Paul nous inspirer pour la semaine de jeûne et de prière, pour la suite après le culte de la rentrée, laisser cette prière-là s'enraciner en nous et nous influencer dans notre vie personnelle de prière. Alors, de quoi est faite la prière de l'apôtre Paul? Premièrement, je fléchis les genoux devant Dieu le Père. L'adoration. L'adoration. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, mon réflexe naturel, ce serait d'abord de demander quelque chose à Dieu. Évidemment, quand je commence à examiner mes besoins personnels, je me dis, c'est infini. Je pourrais passer toute ma vie à demander des choses à Dieu tellement je vois mes besoins, ma faiblesse. Et bien sûr, il y a une place pour les demandes à Dieu dans la vie de prière. Mais Paul, ici, commence par Dieu. C'est comme Jésus l'a enseigné dans Notre Père. Notre Père qui es aux cieux. Commencez par Dieu. Fixez les regards sur l'Éternel. Savoir à qui on parle. Mettre devant son cœur la grandeur, la majesté, la toute-puissance, la souveraineté de Dieu, son œuvre dans le salut. Paul commence par Dieu. Et Paul, quand il a mis devant Dieu ce grand Dieu qu'il adore, il est pris de vertige. Ses genoux commencent à plier. Je plie les genoux. Dieu devant les yeux, et Paul plie les genoux. Deuxièmement, Paul en vient à l'intercession. Je demande à Dieu, je lui demande. Moi, je trouve ça très intéressant de lire les prières du premier missionnaire de l'Église, de ce théologien, cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, et de voir qu'est-ce qui est prioritaire pour Paul quand il prie. Et de comparer mes prières à celles de l'apôtre Paul. Est-ce que c'est en phase? Est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que je demande les mêmes choses que l'apôtre Paul quand je prie? Alors, qu'est-ce que demande Paul? Que l'esprit des chrétiens soit fortifié par le Saint-Esprit. Waouh! Paul, s'il était dans l'église d'Ozoir, prierait pour que chacun de nous, on soit rendu fort par le Saint-Esprit. Honnêtement, je dois vous avouer que je n'ai pas souvent prié pour mes frères et sœurs du Val d'Europe de cette manière-là. Mais imaginez ce qui pourrait arriver dans notre vie d'église, si on commençait à prier les uns pour les autres. Seigneur, rends Manu, rends Christian, rends Richard fort intérieurement par le Saint-Esprit. Et que les uns les autres, on se mette à prier, Seigneur, rends fort mon frère et ma sœur par le Saint-Esprit. Mes amis, ce n'est pas un luxe. On a besoin d'être rendu fort par le Saint-Esprit pour avancer, pour progresser. Et Paul, c'est ça qu'il demande. Rends-nous forts par le Saint-Esprit, les uns les autres, et prions pour cela, c'est important. Que les chrétiens soient fortifiés par le Saint-Esprit. Ensuite, que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ah bon? Moi, je pensais que Christ habitait déjà dans le cœur des chrétiens. C'est ce que j'ai appris. On se convertit, Jésus vient habiter dans notre cœur. Et là, l'apôtre Paul, il parle à des chrétiens. En principe, ils ont déjà Jésus dans leur cœur. Qu'est-ce qu'il demande ici, Paul, en fait? Il demande que Jésus ne soit pas seulement qu'un invité toléré, voyez-vous. Ok, Seigneur, tu peux être dans ma vie, mais tu vas rester là. Et puis, touche pas trop, ne dérange pas trop. Tout est en place, il ne faut pas trop que tu chamboules ma vie. Hein. Non, qu'il habite dans mon cœur, dans toutes les parties de mon cœur. Qu'il habite dans mes pensées, dans ma volonté, dans mon imagination, dans mes paroles, dans mes attitudes. Faites que Jésus règne dans ma vie. Et Paul nous dit comment cela se fait, comment c'est possible. Il dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ça veut dire que je lui confie toutes les sphères de ma vie, par la foi. Seigneur, règne dans ma vie, règne dans mon cœur. Alors, que l'esprit des chrétiens soit fortifié par le Saint-Esprit, que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Et il y a comme un crescendo. C'est comme dans mon pays, quand on fait une boule de neige, il y a une pente, il y a beaucoup de neige, et la boule grossit en descendant, et ça devient une super grosse boule de neige. Et Paul, là, il va en montant. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés dans l'amour. Paul demande que les chrétiens d'Éphèse grandissent dans l'amour. Ça va peut-être vous surprendre, mais vous comme moi, on a une vision beaucoup trop faible de l'amour de Dieu. Vous êtes d'accord? Une idée beaucoup trop faible de l'amour de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que, sans doute, on compare l'amour de Dieu à ce qu'on connaît des hommes. Hein? Les hommes, ils aiment d'une manière intéressée, conditionnelle, si je suis gentil. Dieu, il n'est pas comme ça. En fait, Paul nous explique que pour comprendre l'amour de Dieu, il faut contempler le Christ. C'est là que l'amour de Dieu brille de tous ses feux. Contempler le Christ. Il y a toutes sortes de livres intéressants qui ont été écrits sur la croissance de l'Église. Et on a plein de personnes qui nous en parlent. Et moi, je vous encourage à acheter ces livres, à aller à ces séminaires, et à entendre parler de la croissance de l'Église. C'est important. Tous ces livres-là sont utiles. Mais ici, Paul, il me semble, nous donne une clé importante pour avoir une Église en santé, une Église qui grandit. Prions les uns pour les autres que Dieu nous révèle toutes les dimensions de l'amour de Christ. Seigneur, révèle à Marie-Christine toutes les dimensions de ton amour. À Rosemary, à Jeannette. Seigneur, révèle-nous toutes les dimensions de ton amour. Je pensais savoir, mais je sais encore trop peu. Je veux connaître ton amour. Et Paul en fait une prière forte, importante. Et qu'est-ce qui se passe quand l'Église progresse dans ce domaine-là? Et là, c'est fort. Paul dit que quand on a compris de mieux en mieux toutes les dimensions de l'amour de Christ, on est rempli de toute la plénitude de Dieu. Alors allez-y, priez pour moi. Révélez, Seigneur, révèle les dimensions de ton amour à Pierre. Et moi, je veux être rempli de toute la plénitude de Dieu. Et vous? Oui, et l'Église? Prions pour que Dieu nous révèle son amour, les dimensions de l'amour de Jésus-Christ. On comprend encore trop peu cela. Et la fin de la prière de Paul, elle est extraordinaire. Et elle nous ouvre des horizons qui dépassent la pensée humaine. Imaginez, tu adores Dieu. Tu lui demandes de te fortifier intérieurement par le Saint-Esprit. Tu lui demandes de régner dans tous les domaines de ta vie, de te révéler l'amour de Jésus-Christ pour toi. Qu'est-ce qui va se passer? attends-toi à voir la puissance de Dieu éclater dans ta vie et dans la vie de l'Église. Dieu va faire des choses dans ton Église que tu ne peux même pas imaginer.
Celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou même penser. Alors pense à quelque chose de grand. Dieu fait plus. Dieu qui fait infiniment au-delà de ça. On demande à Dieu d'agir dans ton cœur, dans la vie des chrétiens, dans la vie de tes frères et sœurs, qui nous révèle son amour. Et le verset 21, le dernier verset du passage est important. C'est quoi le but de la prière? Mon enfant personnel? Que Dieu m'aide à construire mon royaume personnel? Que j'ai une vie sans problème? La Bible dit ici que le but de la prière, c'est la gloire de Dieu dans l'Église et partout dans le monde. On prie pour voir la gloire de Dieu se manifester. Et bien sûr que ça va être bon pour nous, parce que Dieu est bon. Mais on veut la gloire de Dieu dans l'Église. On veut la gloire de Dieu dans la vie de nos voisins chrétiens. Que Dieu se révèle à nos contemporains, qu'il y ait des gens qui se tournent à Dieu, que nous soyons changés, transformés à l'image de Jésus-Christ. Nos prières sont pour sa gloire. Nous prions pour voir la gloire de Dieu dans l'Église, dans le monde, dans nos familles, en France, dans cette génération, parmi les jeunes, parmi les hommes politiques, les intellectuels, les pauvres, les riches. La gloire de Dieu, à lui, soit la gloire dans l'Église, par Jésus-Christ, et dans tous les siècles. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.